Ben c'est ça, ils sont là tous les deux. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Salut.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant en communication, stratège politique. Bonjour Carl.
Allô, allô.
Là, c'est François Legault donc qui dit « J'espère que mes députés ne me feront pas ce que Guy Ouellet a fait à son propre gouvernement libéral. »
C'est la moindre des choses, hein?
Oui, vraiment, mais...
Quand tu as un gouvernement ou un parti fonctionnel, tu n'as pas un joueur de ton équipe qui aide l'autre équipe à ton insu. Ça, c'est la base, hein?
Et rappelle-nous pourquoi on en arrive là?
Ben, il y a... c'est les Journal de Montréal qui a sorti une information selon laquelle des adresses courriels venant du bureau de Guy Ouellet ont transmis des informations à la Coalition Avenir Québec, des informations qui éclaboussaient des gens liés au Parti libéral, des questions de nomination, de financement, etc., des gens haut placés dans la famille libérale. Donc, Guy Ouellet, député libéral, des courriels qui viennent de chez lui, qui s'en vont à l'opposition pour nuire aux libéraux.
Et depuis, François Legault a confirmé qu'effectivement, les fameux courriels, non seulement ils provenaient d'un courriel associé à Guy Ouellet, mais ils provenaient définitivement de Guy Ouellet. C'est bel et bien Guy Ouellet, député libéral, qui l'a envoyé à la CAQ pour nuire à son propre parti.
Tout le monde est perdant là-dedans. La CAQ est perdante parce que, écoute, t'es une source... T'as des informations sensibles, tu veux les donner à un parti, mais tu veux rester anonyme. Ben là, t'as vu que quand t'es donné à la Coalition Avenir Québec, ben ça arrive que ton anonymat est dévoilé.
Oui,
ben ça te refroidit.
Tu peux pas être une source pour la CAQ. Si quelqu'un veut donner des informations à la CAQ, il risque de voir leur nom sur les pages de journaux comme étant le traître ou la source ou la taupe, nomme-les comme tu veux. C'est inquiétant pour ces gens-là. Et puis, la CAQ se tire dans le pied parce que évidemment là, ils vont peut-être former le gouvernement, mais dans l'opposition, t'as besoin de sources, t'as besoin d'être alimenté.
Oui, mais là, t'as peu, Carl. Oui, t'as raison. Tu protèges les gens qui te parlent, mais c'est pas normal, comme le disait Paul, c'est pas normal qu'un député d'un parti X joue dans le dos de son propre parti puis aille donner de l'information.
Souvent que tu penses, Bernard.
Ben, je sais que ça arrive.
Ça arrive très souvent.
Mais à un moment donné, il faut que tu aies un minimum de loyauté envers ta gang, à moins que ta gang fasse quelque chose de particulièrement croche et dégueulasse et immoral et illégal.
Mais dans le cas de Guy Ouellet, il n'y a rien de normal dans son cas depuis longtemps. Là, écoutez, on n'en est pas à la première histoire abracadabrante. Souvenez-vous, l'arrestation de l'UPAC, Jacques Chagnon, président de l'Assemblée national qui dit que l'on accuse ou que l'on s'excuse parce qu'il avait été arrêté sans être accusé. Puis ça fait longtemps qu'on ne comprend pas trop à quel jeu Guy Ouellet joue. Puis ça peut, on dirait que les histoires de police au Québec sont tellement incestueuses.
Ouais.
Entre autres, on sait que Guy Ouellet en voulait à la sous-ministre au transport, Dominique Savoie. Ben, qui était en froid avec Dominique Savoie, la conjointe d'Annie Trudel? On le sait aussi que Guy Ouellet était un des plus féroces critiques de l'UPAC. Qui est à la tête de l'UPAC? Ben, c'est l'ennemi juré de Guy Ouellet. Puis honnêtement, on a la difficulté à comprendre c'est quoi les sources de l'hostilité de M. Ouellet à l'endroit du patron de l'UPAC. Mais on sait qu'elles sont réelles. Il y a plein de conflits personnels qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et comme je le disais, pour la CAQ, ça fait mal de savoir que si tu leur dévoiles des informations, ben ton anonymat ne sera pas protégé. Puis surtout, pour le Parti libéral, on s'entend-tu, on va parler un peu d'eux. Ça aussi, ça fait mal. Là, tu vois qu'ils sont pas capables de garder l'unité dans l'équipe. Et les informations elles-mêmes sur les nominations, les gens qui ont eu des promotions, qui auraient peut-être pas dû les avoir, ben c'est embêtant.
Ça fait deux jours que Philippe Couillard est en train de parler de Guy Ouellet, puis que son député n'est pas loyal, mais que lui va le demeurer, puis qu'il n'a pas réussi à lui parler. D'ailleurs, on l'écoutait aux nouvelles tantôt, au bulletin. Pas réussi à parler à Guy Ouellet encore, Philippe Couillard. Ça, c'est assez invraisemblable.
C'est incroyable. On est à quatre jours du vote, puis tu as le chef du parti libéral, gouvernement sortant, qui dit « Je suis pas capable de parler à un de mes candidats ».
Puis M. Couillard dit, il est encore candidat.
Ouais.
Message implicite qu'il a ma confiance, mais c'est ça que j'allais dire.
Il est encore candidat
parce qu'il ne peut pas l'enlever. Il est trop tard, le délai est passé. Imagine-toi l'ambiance, Bernard. Si Guy Ouellet est élu, prochain caucus libéral, on dévoile des informations sensibles. Tout le monde se retourne, regarde Guy Ouellet, puis...
Donc,
t'es sûr que t'as laissé ton cellulaire à l'entrée?
C'est clair. OK, parle-nous un petit peu de René Lévesque.
Oui.
Hein, René Lévesque qui est un personnage de la présente campagne électorale.
Qui l'eût cru? C'est pas la première fois qu'on l'instrumentalise, qu'on se réclame de lui, qu'on joue avec le fantôme de René Lévesque. Là, c'est Manon Massé qui a cité René Lévesque en disant que les Québécois étaient quelque chose comme un grand peuple. Et elle s'est réclamée de lui. Elle a dit qu'elle parle plus d'indépendance que le Parti québécois. Puis elle a fait une analogie entre Québec solidaire et le PQ aujourd'hui. Et l'Union nationale et le PQ à l'époque. Hey boy, l'Union nationale, c'est le PQ qui joue son rôle aujourd'hui, puis QS, ben, c'est comme le PQ d'autrefois.
Ouais. Mais écoute, elle parle au niveau de l'échiquier politique, pas au niveau de l'idéologie, j'espère.
Non, elle parle de
l'idéologie. Elle dit que René
QS
Lévesque
va remplacer le PQ, puis que le PQ va disparaître comme l'Union nationale. C'est un peu ça qu'elle veut dire. Là.
C'est un peu ça, mais l'analogie est intéressante. Écoute, l'Union nationale a cédé la place au Parti québécois comme étant le principal parti nationaliste, même si c'est un peu plus compliqué que ça, alors qu'aujourd'hui, ben, il y a un éclatement autant à la gauche qu'à la droite du Parti québécois. C'est pas un parti qui mène à un autre. À la gauche, il y a Québec solidaire. À la droite, il y a la Coalition Avenir Québec. Donc, c'est pas mal plus compliqué. Mais écoute, je suis pas historien. Là. Ça serait le fun, d'ailleurs, d'entendre un historien parler de René Lévesque puis de son rapport avec la gauche. Mais selon ce que j'en comprends, René Lévesque, il y a de grandes différences avec Québec solidaire. On parle souvent de René Lévesque avec Pierre Bourgault, qui a réussi à faire l'union avec son aile gauche. Mais M. Lévesque avait aussi fait une alliance avec le ralliement national. C'est quelque chose que Éric Bédard explique très bien dans un essai dans son livre « Recours aux sources », où il explique que Lévesque a fait un appel aux vieux bleus. Mm-hmm. Il existe des conservateurs nationalistes un petit peu plus à droite au Québec. Et Lévesque, c'est pas seulement tourné à sa gauche, il a aussi été regardé à sa droite pour faire l'union, parce qu'il se disait qu'avant les questions de gauche et de droite, il y avait celle de la cause nationale, alors que Québec solidaire fonctionne un peu dans l'ordre inverse. On ne voit pas Québec solidaire tendre la main aux gens à droite. C'est les questions de justice sociale en premier et l'indépendance en deuxième. Et d'ailleurs, il y a quand même des électeurs fédéralistes qui appuient Québec solidaire, et Québec solidaire avait des atomes crochus avec le NPD. Donc, l'analogie avec René Lévesque, là, elle me semble avoir de très, très grandes limites.
Manon, c'est tiré par les cheveux.
Manon Massé, d'ailleurs, elle a réagi aux attaques de Jean-François Lisée. On l'écoute.
Je pense que M. Lévesque a inspiré tout un peuple. Honnêtement, cette inspiration-là, elle n'est pas juste... Elle est partout, là. C'est l'ensemble des Québécois et Québécoises. Même, j'ai vu des nouveaux arrivants, comme Amir Kadir, qui s'inspirent de René Lévesque. Alors, cet homme-là n'appartient pas à personne.
Oui. Bon, il appartient pas à personne, justement.
Mais
peut-être qu'il vaut mieux.
On sait que la meilleure façon d'écœurer les péquistes, c'est de dire que René Lévesque aurait été en désaccord avec vous. Ouais. Moi, je m'en souviens, quand j'étais à l'Assemblée nationale, les libéraux, sur certains sujets, quand ils voulaient vraiment faire sortir les péquistes de leur gond, ils disaient, vous faites jamais, René Lévesque n'aurait toléré ce que vous faites aujourd'hui.
Oui, j'ai quelques souvenirs de ça. On va s'arrêter parce qu'au retour, il faut parler un petit peu quand même de l'ALENA. Et du fait que hier Trump et Trudeau avaient la chance de se serrer la pince, et Trump a carrément ignoré Justin Trudeau aux Nations Unies. Alors, de retour avec Paul et Carl. Carl, parle-nous donc de ce... Mais tu nous en as parlé un petit peu hier du moment un peu malaisant où tu as Trudeau qui est tout près de Trump et qui veut visiblement attirer son attention, puis Trump qui dans le fond, joue l'indifférence. Et finalement, Trudeau finit par attirer son attention en lui tapotant l'épaule, puis ils finissent par se serrer la pince, mais d'une façon très, très, très froide. Et là, ce qu'on comprend, c'est que, bon, Trump en a rajouté en disant « Ouais, il voulait me rencontrer, mais moi, je voulais rien savoir parce que je les aime pas, les Canadiens, ces temps-ci. »
C'est exactement ça. Écoute, il a fait une longue conférence de presse, puis on lui a demandé pourquoi il avait refusé de rencontrer Justin Trudeau. Écoutons le président américain.
We're very unhappy with the negotiations and the negotiating style of Canada. We don't like their representative very much. They've taken advantage. I love Canada, by the way. I have so many friends. I have everybody. It's so many friends. But that has nothing to do with this.
Ouais, c'est ça. Il nous aime.
Il est ami avec tout le monde.
Il nous aime et nous envoie promener à journée longue.
C'est ça. Puis écoute, du côté du gouvernement Trudeau, ben, Justin Trudeau lui-même a réagi à ça ce matin. Il a démenti avoir demandé une rencontre. Il dit qu'il peut le rencontrer tout le temps de toute façon. Mais il a sa propre explication à savoir pourquoi Trump n'est pas content, pourquoi il aime pas les représentants du Canada. On peut l'écouter.
Les Américains trouvent que les négociations sont difficiles. Parce que les Canadiens, c'est des très, très bons négociateurs, comme on devrait l'être. Un accord qui est bon et juste, qui est tout à fait possible, on ne signera pas un mauvais deal pour les Canadiens.
Bon. On espère qu'ils sont bons, nos négociateurs, parce que c'est évident que les Américains ne nous feront aucun cadeau.
Il n'y aura pas de quartier. Et puis, écoute, ce qu'on dit en coulisses, c'est que le problème, la personne que les Américains ne peuvent pas sentir, c'est Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères. Et rappelle-toi, le printemps passé, elle était nommée diplomate de l'année par un magazine prestigieux. Et lorsqu'elle est allée aux États-Unis pour accepter son prix, son discours a été perçu comme une attaque envers la politique étrangère de Donald Trump. Il y a 3 semaines, Chrystia Freeland participait à un forum sur les tyrans. Et ce forum-là, on mettait sur le même pied là, Vladimir Poutine, Bachar al-Assad et Donald Trump. Donc, on l'a pas pris. Et c'est ce que Donald Trump faisait hier à mots couverts en disant « Mais on n'aime pas les représentants du Canada. » C'est de ça dont on parle.
OK. Bon, mais écoute, moi, je vais te dire franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Carl, là, mais c'est Machiavel qui nous l'a dit. Là. L'important en politique, c'est pas d'être aimé, l'important, c'est d'être respecté. Et si Chrystia Freeland est respectée des Américains, moi, c'est tout ce qui m'importe en bout de ligne. Qu'il ne l'aime pas, franchement, je m'en balance un peu. Là. Ce qui m'importe, c'est est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle défend bien nos intérêts commerciaux, nos emplois? Moi, je pense que c'est ça qui est important, là.
Puis écoute, la commissaire au commerce de l'Union européenne a défendu Freeland sur les ondes de la CBC en disant elle est excellente, c'est une excellente représentante pour le Canada. Donc, elle a gagné beaucoup de respect à travers le monde, en fait, dans le cadre de ces négociations-là. Et le fait que Trump est irrité sur ce point-là, c'est peut-être pour justement que ça démontre son efficacité parce qu'elle ne plie pas aussi facilement que Donald Trump voudrait.
Elle a du chien, la Freeland. Elle a du chien. Vas-y
mais
donc,
pour compléter avec ton Machiavel, là, c'est pas tant important que le tyran soit aimé, mais qu'il soit respecté. Puis le respect vient de la crainte. La crainte est liée au rapport de force. Or, que Mme Freeland et que les négociateurs canadiens soient bons ou mauvais n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas le gros bout du bâton, ils n'ont pas tout à fait un rapport de force. Et c'est ça qui complique les négociations.
Ça, on peut avoir une discussion là-dessus. Hein? Parce que moi, je veux te dire, j'avais cette conviction-là aussi que, surtout après le deal avec le Mexique, que le Canada avait perdu beaucoup, beaucoup de son rapport de force. Et après un certain nombre de discussions, j'en suis venu à la conclusion que notre rapport de force était meilleur qu'on le pensait. Et c'est la conclusion à laquelle en sont venus d'ailleurs les négociateurs canadiens. Ils se sont rendus compte que Trump avait besoin d'une victoire commerciale en prévision des élections de mi-mandat de novembre. Il a besoin, parce qu'il passe son temps à se péter bretelles, qui est le meilleur négociateur au monde. Or, pour le moment, là, à part l'entente avec le Mexique, il n'y a rien. Il n'y a pas d'entente avec les Chinois, il n'y a pas d'entente avec les Européens, il n'y a pas d'entente avec les Canadiens. Et donc, la conclusion à laquelle nous, puis on espère qu'ils ne sont pas trompés, mais la conclusion à laquelle nos négociateurs en sont arrivés, c'est que dans le fond, notre rapport de force, là, il est peut-être meilleur qu'on le pensait. Et les Américains, ils en veulent un deal avec le Canada.
J'espère que tu as raison.
Ce rapport de force-là s'appuie aussi beaucoup sur les représentants au Congrès, sur les sénateurs, qui, eux, veulent absolument que le Canada soit inclus dans une entente et qui le font savoir allègrement et fortement au bureau, à la Maison-Blanche. Et le Canada se sert de ça, évidemment.
Oui. Mais quand même, sans contredire tout ce que vous venez d'affirmer, les États-Unis sont plus importants pour le Canada que le Canada n'est important pour les États-Unis d'un plan strictement commercial.
On s'entend.
Mais en effet, c'est la stratégie habituelle du Canada de miser sur l'intérêt de certains États et des consommateurs. Souvenons-nous le dossier du bois d'œuvre. Un des meilleurs alliés du Canada, c'est l'industrie de la construction américaine qui profite du libre-échange avec le bois d'œuvre parce que ça fait baisser les prix et on se tourne souvent vers eux pour qu'ils nous aident.
Ouais, exact. Prix des maisons.
Et on se tourne vers eux pour qu'ils nous aident. Ils le font, mais ça n'a pas suffi dans le passé. Mais bon, il y a quand même des différences entre le bois d'œuvre et l'ALENA, entre autres à cause de l'échéancier électoral dont vous avez parlé.
Très bien. On veut parler 2 minutes, Carl, de ce député libéral de Saint-Léonard-Saint-Michel, M. Diorio, qui était un excellent député. C'était un des rares qui, dans le caucus libéral, qui savait une fois de temps en temps se faire entendre puis défendre notamment le droit du Québec de gérer ses propres compétences. Et là, à un moment donné, il nous annonce qu'il sacque son camp, qu'il va démissionner, qu'il va quitter la vie politique. Et là, on apprend, c'est quoi, il y a quelques jours de ça, qu'il avait changé d'idée, puis finalement qu'il allait rester. Mais il n'y a pas personne qui est capable de parler à Diorio. Alors, où est-ce qu'on en est avec cette histoire?
Bien, on n'est pas plus avancé. Effectivement, la semaine dernière, j'ai pas vu ça passer dans le Progrès Saint-Léonard. Il faut dire que mon abonnement est échu, mais il a déclaré qu'il avait changé d'idée, puis qu'il allait rester. Il était censé démissionner cet été. En fait, il a fait son discours d'adieu au mois de juin. Il citait des raisons familiales, entre autres. Puis, écoute, il était retourné à la pratique du droit. Il est partenaire chez BCF. Tu vois, sur le site web de BCF, puis Nicolas Diorio, il est là.
BCF, c'est une firme d'avocats.
Une firme d'avocats. Ouais, une firme d'avocats qu'on sait exactement. Ouais. Alors, il a changé d'idée. Il va rester parce que, bon, il dit, toujours dans le Progrès Saint-Léonard, que c'est difficile de trouver un successeur potentiel. Donc, il va terminer son mandat. Le problème, c'est que les libéraux sont passés à autre chose. Puis lui, il a pas parlé aux libéraux.
Comment il a pas parlé?
Il l'aura pas dit. Il y a personne qui a l'air au courant. Le whip du Parti libéral, il a même qualifié l'affaire de rumeur, alors qu'il y a des déclarations de son député dans les médias. Et personne qui semble savoir ce qui se passe. Puis là, le problème, c'est que les libéraux, ben, il y avait une partielle en préparation. On se préparait à amener du sang neuf. Et là, c'est en suspens parce que tant qu'il n'y a pas démissionné officiellement, on peut pas, évidemment, déclencher une élection partielle.
Puis c'est une belle circonscription pour les libéraux, Saint-Léonard. C'est une circonscription qui peut attirer un bon candidat ou une bonne candidate.
Et c'est une circonscription qui est libérale depuis très longtemps.
Est-ce qu'il va en chambre? Visiblement, il va pas en chambre, sinon les journalistes l'auraient trouvé.
On l'a pas vu en chambre encore. Évidemment, les journalistes tentent de le retracer, laissent des messages à son bureau.
Il est comme un député fantôme, hein, un peu?
Mais oui, un député fantôme qui pratique le droit présentement chez BCF.
Donc, il collecte aux deux places parce qu'il continue, évidemment, à percevoir son salaire de député. C'est très étrange, cette histoire-là.
C'est très bizarre.
Carl Bélanger, merci.
Merci.
Paul Journet, merci.
Merci.
À demain, les deux, et on s'arrête, on revient dans quelques minutes.